Cascodeur Podcast, épisode 246. Spécial Loi, Société et Organisation avec Agnès Crépé. Enregistré le 6 janvier 2021. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2021 des Cascodeurs.
Bonne année!
Bonne année, meilleurs vœux!
Bonne année à tous, on espère qu'elle sera moins dure que celle qu'on vient de passer. Mais on commence avec un épisode un petit peu particulier, du coup c'est un cadeau de Noël après l'heure, on peut dire ça comme ça. Alors pour cet épisode particulier dont on vous avait un petit peu fait le teasing dans le dernier épisode news, nous nous sommes octroyés un invité de choix. On lui a pas vraiment laissé le choix. On lui a dit, tu viens, on a besoin de toi. Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir avec nous Madame Agnès Crépé. Et
bonjour.
C'est un grand plaisir. Merci beaucoup.
Tout l'honneur est pour moi, évidemment, d'être dans les Cascodeurs.
Tu avais déjà fait un épisode, en fait.
Yes, il y a quelques temps, hein, je me souviens, ouais. J'étais enceinte de mon fils, donc c'est il y a 6 ans, un truc comme ça, ouais. Ça nous rajeunit pas tout ça.
Exactement, ça fait un peu peur. Ah oui, c'est vrai, j'en ai fait un il y a 10 ans.
Ouais. Voilà, donc un épisode, comme on vous l'avait annoncé, qui va être particulier, puisque dans celui-ci, on va parler uniquement de tous les thèmes qui sont liés à ce qu'on appelle habituellement la rubrique loi, société, organisation. Et comme on a pas mal de choses, on va démarrer tout de suite, et on va démarrer avec un sujet
Attends, je vais aller contre toi là, du coup, mais donc loi, vas-y. Société, je comprends, organisation, pourquoi, c'est quoi, qu'est-ce que tu mets dans organisation, du coup, dans ce...
Moi, j'y vois un petit peu les organisations privées, dans le sens GAFAM.
D'accord.
Mais comme ça pourrait être aussi des organisations publiques, type EFF, etc.
D'accord, okay. C'est dans ce sens-là. C'est pas l'organisation de ta boîte ou des choses comme ça.
Non.
D'accord.
Non, non.
Voilà. C'est plus je le vois comme société et organisation, quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas que les États, il n'y a pas que les sociétés. Tu veux aussi parler de structure. Privé.
Après, non, parce que société, c'est la société, là, je crois. C'est pas les sociétés.
Oui. C'est, ah, voilà.
Bon. Bref.
Ok, clair.
Peut-être on renommera un jour, on verra. En tout cas, épisode dédié, qui du coup va prendre une demi-heure, parce que avant, c'était juste une petite rubrique.
ouais, bien sûr. Ouais. Donc, on va attaquer tout de suite avec, effectivement, avec une rubrique qui, nous concerne beaucoup, puisque on parle de télétravail.
Ouais.
Et notamment du lien entre télétravail et législation. Puisque qu'est-ce qui se passe, c'est que depuis les événements de l'année dernière, le fait qu'une grande partie de la population mondiale soit passée en confinement et qu'on ait dû beaucoup basculer en télétravail pour ceux qui n'y étaient pas encore, eh bien il y a des petits indices pas très sympas qui se manifestent. Donc par exemple, on a vu qu'il y avait une hausse des recherches qui sont liées aux manières de monitorer les employés qui travaillent de la maison. On a vu une belle progression aussi des logiciels qui permettent de faire ça. Tant et si bien. Et là.
Ouais, et quand on dit monitorer, il y en a ça. Keylogging, prendre la caméra, faire des copies d'écran, regarder quelles applications sont utilisées. Donc ça, bon, on peut monitorer sérieusement.
C'est assez violent. Et ce qui est intéressant, c'est que la CNIL, de son côté, a elle aussi reçu de plus en plus de questions portant sur ces domaines-là. Donc, elle a fini par émettre un document de questions-réponses sur ce qui est autorisé et pas autorisé selon elle. Alors, il y a deux choses.
Un rappel d'ailleurs, parce que c'était clair avant. Enfin,
c'est un rappel, mais ça n'avait pas l'air d'être clair pour tout le monde, en particulier certains employeurs. Les règles sont très claires, hein. L'employé ne peut pas placer ses salariés sous surveillance personnelle permanente, sauf des cas exceptionnels qui seraient liés à la nature de la tâche, mais bon, a priori, nous, développeurs, ne sommes pas concernés, ce serait plus, par exemple, la sécurité de site ou des produits sensibles. Si l'entreprise veut mettre en place un outil de surveillance, il faut que le CSE, le Comité économique et social, soit informé au préalable, puisqu'en fait, votre employeur a une obligation de loyauté envers vous, c'est-à-dire qu'il ne doit pas chercher à vous piéger. Et donc, la CNIL est assez catégorique. Les partages d'écran, les keyloggers, la surveillance via des dispositifs vidéo ou audio, c'est interdit. Voilà. et plein d'autres choses.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, ça a augmenté de 50% si tu regardes de mars à, je sais pas, à décembre. Mais l'évolution du pourcentage, il est intéressant. J'avais lu un truc du genre, en avril, ça a augmenté de 80 ou 90%, puis en mai, ça a baissé à 70, etc. Ça a continué à baisser. Donc, je te parle de la, du nombre global de recherches autour de ces outils-là, surveillance. Donc, toi, tu peux interpréter ça comme, OK, il y a plein de grosses boîtes qui ont peut-être flippé, tu vois, le monde corporate est un peu flippé, mais bon, au bout d'un moment, tu vois, il y a quand même une acceptation. Une confiance instaurée, peut-être.
Alors, la problématique qui était relevée dans l'article où on avait ces chiffres-là, justement, c'est que sur les 10 outils, les 10 principaux outils qui sont utilisés pour ça, il y en a quand même 8 qui proposent des réductions sur les tarifs à l'année, sur les abonnements à l'année. Et donc, ça fait un peu craindre que, au contraire, il y a eu une hausse des recherches, mais que les gens ont peut-être
acheté.
Voilà, ils ont acheté.
C'est ça, il faut t'acheter, tu vas pas non plus continuer à chercher.
Voilà, et que ce serait une pratique qui aurait tendance à devenir pérenne, puisque les abonnements sont annuels.
Ouais. Ouais. Moi, ce que j'ai... Bah, déjà, il y a un rappel, enfin, on parlera peut-être après, mais il y a un droit à la déconnexion, d'accord ?
Tout à fait.
C'est un respect, enfin, c'est un devoir, d'ailleurs, de l'employeur ou de vos collègues. Et puis moi, ce qui m'a frappé en fait, bon déjà dès que j'ai lu le début, je me suis dit bon, mais ils ont rien compris à comment on motive des gens déjà.
Ouais.
Clair. Et puis celui qui m'a le plus frappé en termes de, il y a un des articles qui est un petit peu un retour d'expérience de gens spécifiques. La personne disait tous les matins, je reçois mon taux d'activité effective et je suis à 50% et je me sens en gros comme une merde, etc. Et donc il y a une gamification négative en fait dans ce sens-là où on genre alors là t'es à 50 et même sans que ton manager le dise, ce qu'il peut peut-être le dire, mais ça sera encore pire, mais sans que le manager te dise, tu vois que t'es à 50% et du coup tu vas dire ah attends, il faut au moins que je sois à 75% et du coup tu vas aller te pousser, de faire des heures à n'en plus finir, et c'est hyper négatif. On voit les gens qui vont plutôt vers le craquage au bout d'un moment.
Ouais.
Ouais. Et après, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais bon, moi perso, je bossais dans une boîte où on est habitué à faire du remote, mais où quand même, en fait, et ça je l'ai remarqué, j'ai lu des choses sur cette question-là, tu parles de droit à la déconnexion, Emmanuel, mais on attendait quand même les gens à être tout le temps disponibles, beaucoup plus quand le télétravail est devenu la norme. Donc en gros, quand tu es sur Mattermost ou Slack, il faut que tout le temps que tu sois dispo, que tu sois vert, quoi. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que t'as quand même pas mal de gens qui se sont soulevés contre ça pour un droit à la déconnexion et un droit à pas tout le temps être up, quoi. Ouais. Et ça a créé des discussions intéressantes, je trouve, parce que avant le corona, je pense que on était, nous, personnes bossant dans la tech, habituées peut-être au remote, on avait digéré ça, tu vois. Et je pense que le corona a remis en question ce truc-là. Et où ça peut paraître maintenant un peu plus normal, ça dépend des boîtes, mais en tout cas, pour certaines boîtes, ça peut paraître plus normal d'être, de pas être up, quoi.
C'est marrant parce qu'on
a ce droit-là, quoi.
Moi, c'est un, donc ça, c'est pour le coup, c'est juste mon expérience, mais à Red Hat, déjà, dès le début, on a été beaucoup en soutien, donc c'est les Italiens qui ont commencé à être confinés en premier et qui se sentaient pas bien, en fait. Ils se disaient, on est des imposteurs, enfin, il y a eu des retours comme ça. Et donc, il y a eu vraiment un gros soutien de tout le monde. Et du coup, là, t'es pas là parce que, voilà, de toute façon, il y a des gamins chez toi et qu'on sait que c'est difficile. Ça a été martelé et on a continué énormément cet effort-là. Et pareil, moi, naturellement, je me bats, alors c'est un peu, je me bats contre des moulins, mais je me bats contre la messagerie instantanée qui est vraiment l'outil le pire en termes de...
Ouais.
En termes de là, parce qu'on se dit c'est une messagerie, donc on peut ne pas l'écouter en théorie, mais en fait en vrai les gens s'attendent à une réponse immédiate et c'est là la grosse.
C'est là le piège.
Moi je lis pas mes emails dès le matin, la messagerie instantanée, je fais exprès de pas y répondre tout de suite, donc je mets une expectation pour forcer les gens à pas penser que je suis dispo tout le temps.
Ouais. En fait, ce que je trouve un petit peu vicieux avec Slack, par exemple, c'est que effectivement, les gens ont tendance à s'attendre à ce que tu répondes immédiatement, alors que pour moi, c'est plus fait pour être des outils de discussion asynchrone. C'est-à-dire que ça te permet d'envoyer ton message rapidement. C'est plus simple d'envoyer un Slack que d'envoyer un mail, etc. Mais c'est pas pour autant que la personne en face doit te répondre immédiatement. Et ça, c'est un point qui est pas assez, je pense, instauré de manière globale.
Moi, je trouve pardon, vas-y.
Non, vas-y, Emmanuel.
Bah, je trouve que c'est le vrai bon message, outil asynchrone, pour moi, c'est l'email. Et effectivement, le message te permet d'avoir une conversation. Et une conversation, ça veut dire un échange quasi instantané, tu vois. Et c'est là où, du coup, pour moi, c'est un peu en porte-à-faux. En théorie, effectivement, c'est asynchrone. Tu peux revenir et lire. Mais quand tu t'es tapé, il y a quelqu'un qui pose une question, tu dis, ah, peut-être qu'il n'a pas eu la réponse, c'est mon domaine d'expertise, t'es obligé de te taper les 70 échanges. Alors, idéalement, les gens l'ont mis dans les threads, mais peut-être pas. Et t'es obligé de te taper 70 échanges pour savoir si la réponse est arrivée ou pas. Tu vois, ça te demande des minutes ou des heures de rattrapage sur quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire.
Ouais, moi, je suis assez d'accord. Et moi j'utilise de moins en moins les outils comme Slack et Mattermost, enfin en tout cas dans la boîte où je bosse chez Fairfun, et on bosse de plus en plus avec des outils comme Basecamp, donc c'est des outils pas que de gestion de projet mais aussi de gestion de la communication, où en fait tu peux pas, enfin les gens sont obligés de s'organiser en threads, c'est plus des threads mais c'est quasi des sujets de discussion, des projets, etc. Et les gens de Basecamp, les gens derrière Basecamp, ils te poussent à avoir sur ta messagerie instantanée des working hours. C'est le précepte qui propose d'adopter. Donc en gros, nous on essaye de le faire dans mon équipe. C'est pas facile, mais on essaye dans la culture de se dire, eh ben on va être dispo sur la messagerie instantanée, up quoi, green, que 2 heures par jour.
D'accord. Et l'outil, il fait quoi pour t'aider du coup à ce niveau-là?
Alors l'outil en lui-même, il fait rien. Ce qui est bien dans l'outil, c'est qu'il organise les sujets de discussion de facto, parce que tu peux difficilement avoir des channels de discussion un peu random. T'es obligé de les organiser par défaut, plus ou moins. Mais sans parler de l'outil, après tous les principes qui sont derrière leur manière de travailler chez Basecamp, c'est vraiment le droit à la déconnexion, le fait de t'auto-discipliner, de surtout pas répondre immédiatement au message et surtout pas, si t'as une question, d'aller pas forcément poser ta question à la personne tout de suite, de déjà la noter et ensuite de l'envoyer, tu vois, des choses comme ça. Donc ça demande, au début, t'as l'impression d'être un peu frais dans ta communication, de t'auto-discipliner un peu trop, mais au final, je trouve ça plutôt pas mal, quoi. C'est ce principe de working hours, ça vient de Shape Up, quoi, la méthode de Basecamp, et je trouve ça classe, quoi. Le fait de dire que t'es up que 2 heures par jour, quoi, par exemple. Et les gens acceptent que les heures restantes, tu réponds pas, quoi.
D'accord.
Mais c'est dur.
c'est pas des sujets simples, en fait, à mettre en place. Enfin, tu vois l'idéal et l'accorder à la pratique qui est plus compliqué.
Mais je pense que c'est une discipline qui doit se discuter vraiment au sein d'un collectif, d'une boîte, etc. Parce que ce truc de la pression de la messagerie instantanée, c'est un truc de fou, quoi. Quand tu rejoins des grosses boîtes et que t'as des messages dans tous les sens et tout ça, enfin, je veux dire, c'est dur, quoi. C'est pire que les emails.
Ouais.
Ah bah, c'est vrai, c'est pire que les emails. D'accord.
Donc, c'est des vrais sujets, quoi. C'est des vrais sujets. Et le corona a fait qu'amplifier ça, quoi.
Après, du coup, il y a le bon manager et le mauvais manager, parce que ce qu'on voit dans le flicage du télétravail, c'est que quelque part dans la chaîne de management, il y a quelqu'un qui est pas très serein par rapport à la confiance qu'il a à ses collègues ou subordonnés. Du coup, effectivement, si t'as quelqu'un qui veut être en contrôle et qui veut voir tout, donc là, il y avait un mot, le panoptique. Je vous encourage à aller voir Wikipédia, ça vient d'une innovation dans les prisons, je sais plus, 18e siècle, quelque chose comme ça. Et techniquement, les outils nous permettent d'avoir une vue globale de tout le monde, et cette sensation d'être fliqué, en fait, a des, comme on en a parlé un peu avant, a des conséquences très néfastes sur tout le monde.
Ouais.
Et c'était marqué dans un des articles qu'on a liés, ça fait baisser la productivité. En fait, ça démotive les gens et ça fait baisser leur productivité. Donc, personne n'y gagne.
Ouais. Et tu parlais de panoptique, Emmanuel. Foucault a beaucoup écrit sur la question. Il disait que c'était justement la clé pour la société disciplinaire, le contrôle social, etc. Et qu'au contraire, ça va amener les gens à se soustraire à cette société-là.
Ouais.
Ce genre d'organisation.
Je vous propose qu'on passe au... Ouais. Voilà. Parce qu'on en a encore pas mal. On va faire un petit détour très rapidement sur le sujet des crypto-monnaies souveraines et des initiatives privées, puisque on vous en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Mais le Libra, la monnaie de Facebook, pourrait arriver en janvier. Alors pour le moment, c'est encore hypothétique. En fait, ils sont obligés d'avoir une licence des autorités financières, en fait, la FINMA, l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers. Et c'est une version qui, si elle arrive, sera très très allégée par rapport à ce qui avait été annoncé. Donc, si vous voulez un petit rappel, on en avait parlé dans les épisodes 214 et 218, tout simplement parce que ça avait levé à l'époque un gros tollé de la part des banques centrales et des autorités financières.
La troisième guerre mondiale, 214.
Donc là, ce sera un actif qui sera arrimé uniquement au dollar, ce qu'on appelle un stablecoin.
C'est pas le premier d'ailleurs.
Voilà, c'est pas le premier et ils ont pas fermé la porte à d'autres fonctions par la suite, mais c'est probablement tout ce qu'ils arriveront à faire dans un premier temps.
À la base, c'était un panier, je crois, c'est ça.
C'est adossé à un panier de devises. Exactement, ouais. Ouais. Et en parallèle, on voit que ça bouge aussi au niveau des États parce que le Japon a annoncé la création d'une crypto-monnaie souveraine pour 2021. Donc, il y a une trentaine de grandes entreprises qui vont participer à la création. Et alors, dans le cas du Japon, c'est un petit peu particulier. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas de plateforme numérique qui soit assez solide pour surpasser les paiements en espèces. Donc, ils espèrent avoir quelque chose qui va leur permettre de rendre ces plateformes compatibles. J'étais passée à côté de la news, mais la Chine a déjà fait des tests au printemps dernier. Elle prévoit un déploiement en 2022. Je ne sais pas si vous l'aviez vu.
Non.
J'avais complètement loupé. Du côté de l'Europe... Et
d'ailleurs, juste le Japon, là, parce que ça m'a vraiment étonné. Mm-hmm. Ils sont à 20% de cartes bleues, en fait.
C'est rien, hein, c'est t'as fou, vu
c'est, alors qu'en Chine, c'est vachement ouais. plus élevé.
Ouais.
Ouais, en Chine, ouais, voilà.
Ouais, c'est l'inverse, quoi. Ouais.
Et donc, de notre côté, la Banque Centrale Européenne lance une consultation publique sur l'euro numérique, sur laquelle vous pouvez participer jusqu'au 21 janvier 2021. Donc, l'idée, ça serait d'avoir une forme électronique de l'euro qui soit émise directement par la BCE. Il y a plusieurs raisons qui justifient, en fait, cette réflexion. C'est déjà la hausse de demande de paiement dans la zone euro, de paiement électronique, de contrer le lancement des initiatives privées type Libra, justement, et éventuellement d'anticiper un événement extrême qui pourrait mettre à mal les moyens déjà existants. C'est un petit peu ce qu'on avait en 2020 avec le Covid qui a un petit peu remis en cause le paiement fiduciaire, puisque, je sais pas vous, mais moi, j'avais pas tellement envie de manipuler des pièces et des billets. Voilà, donc la décision ou non de poursuivre le projet, elle reviendra au Conseil des gouverneurs de la BCE mi-2021. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel, Agnès.
Moi, parce que ça m'a effectivement, les États sont en train de se dire oh là là, on est en train de perdre la main. Les États ou les banques, enfin, c'est les banques centrales, c'est un peu la même chose. Et ils se disent, il faut qu'on puisse garder le contrôle. Donc, il faut une solution. Alors déjà, il y a un côté un peu répressif du genre Libra, jamais ça passera pas par nous. Hein, c'est les messages qu'il y avait eu après l'annonce.
Très clairement, oui, par Bruno Le Maire à l'époque.
Voilà, et puis ouais. et du coup, ils montent un peu aussi. Ils essaient d'offrir une solution alternative. Mais après, ils ont des questions. Est-ce qu'on garde centralisé? Est-ce qu'on décentralise? Parce que ça veut dire quoi, crypto-monnaie, finalement? C'est pas que Bitcoin. Bitcoin, ça n'est qu'une approche. En fait. Et notamment, c'est... Enfin, je sais pas toutes les raisons, mais une des raisons, c'est aussi le contrôle pour les flux de blanchiment, qui sont effectivement une solution décentralisée anonyme, ce qui n'est pas le cas de beaucoup des propositions là. Enfin, en tout cas, elles sont pas, c'est pas forcément explicitement anonyme. Du coup, il y a un enjeu aussi autour de là. Et moi, ce que je me posais comme question, c'est si on a un moyen de faire un euro en équivalent Bitcoin, hein, un espèce de porte-monnaie, mais de monnaie virtuelle, mais qui est adossée à l'euro. est-ce que c'est pas suffisant finalement pour moi et je serais pas intéressé d'aller voir Libra, Bitcoin, des choses comme ça. Donc c'est intéressant à voir.
Il y avait un point qui m'avait surpris dans l'article qu'on a mis sur le justement la consultation publique de la BCE, c'est qu'il alors c'était pas détaillé, mais des considérations écologiques sont aussi prises en compte. Et moi, ça me surprend parce que pour moi, typiquement, tu prends le Bitcoin, c'est écologiquement un désastre. Donc, je ne vois pas en quoi une monnaie virtuelle européenne serait meilleure pour l'environnement que ce qui est déjà en place, en fait.
Bah, en fait, la preuve de, comment ils appellent ça, la preuve de dépôt. Enfin, c'est pas ça le nom exact, mais ce qui est très coûteux dans le Bitcoin, c'est la preuve. Enfin, c'est le calcul de la preuve de.
C'est ça.
D'achat, mais c'est pareil, le Bitcoin n'est qu'une approche parmi d'autres. Il y a des gens qui ont pas mal travaillé à des preuves qui soient beaucoup plus moins consommatrices en puissance de calcul, tout en étant difficile. C'est un peu la complexité en fait, mais tu peux les rendre moins chers en termes de consommation CPU tout en gardant leur côté unique pour pas que ça soit craquable et du coup piratable. Voilà, c'est un peu la difficulté, mais il y a des travaux de recherche là-dessus. Je suis pas hyper expert, donc c'est possible. Après eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on va pas aller prendre du nickel de la terre pour en faire des pièces de monnaie, peut-être. Je sais pas ce qu'ils avaient en tête, en fait.
Oui, c'est possible.
Après, moi, ma vision là-dessus, sur la thématique des crypto-monnaies, bon, ça m'a fait un peu rigoler, quoi, tu vois, quand j'ai vu les débats sur Libra et ensuite. Tu vois, les États qui se réapproprient le truc et qui disent « Non, mais nous, on veut lancer notre propre truc. » Après, moi, ça me fait toujours écho à quelque chose d'assez simple, quoi. Tu vois, la volonté de contrôle, quoi. C'est-à-dire que la fin du cash, ça a toujours été un débat porté par les gouvernements en premier. Après, oui, effectivement, on a vu des boîtes se réapproprier la question, mais ça était toujours porté en premier les gouvernements. Ils ont toujours mis en avant des sujets qui pouvaient être louables, mais pour moi, le cash, c'est aussi, par définition, la possibilité de pas être contrôlé. Donc, l'apparition de toutes ces solutions-là, et notamment d'une monnaie souveraine par pays, ça me fait pas forcément rêver. Si tu penses à l'euro numérique, à cette monnaie européenne, après se pose la question. Cette existence de cet euro numérique, elle va peut-être porter atteinte à certains États européens qui sont moins technophiles, où tu vas pouvoir, où l'accès aux technologies en général pour les populations est moins facile. Donc c'est, ouais, je sais pas en fait, c'est pas forcément quelque chose sur laquelle je vois pas l'intérêt direct. Voilà, c'est ça. Pour le moment, j'ai plus vu la réaction des gouvernements comme étant un pied de nez à des projets privés. Je peux le comprendre.
Ah bah, oui. Oui,
ouais. C'est pas un truc qui me fait rêver du point de vue de son implémentation au sein des pays européens. En gros.
Et on peut continuer justement avec le sujet suivant qui est un petit peu qui revient sur cette notion de souveraineté numérique. Mais là, c'est en mode fail, puisqu'on a eu deux belles nouvelles. Je te laisse introduire la première, Agnès.
Oui. Donc la première, c'est Palantir. Bah, je pense que. Vous avez déjà parlé de Gaia-X, le projet du cloud européen.
Alors non, je ne pense pas qu'on en ait parlé, donc je te laisse le représenter.
D'accord. On a parlé de SpaceX, mais pas de...
Donc oui, le projet de Gaia-X, c'est le fait de penser à un cloud souverain européen. À l'origine, c'était plutôt une volonté française et allemande pour essayer d'avoir une vraie infrastructure de données européenne. Si je reprends les propos plus ou moins de Le Maire, quoi. Donc l'initiative en soi, pourquoi pas, tu vois. Voilà. Moi, au début, les premières annonces, je trouvais ça plutôt cool. Je reparlerai du RGPD, mais moi, je pense que par exemple des initiatives européennes comme le RGPD, c'est plutôt bien. Ça a permis des choses, des mises en place qui vont plutôt dans le bon sens en termes de gestion de la vie privée, etc. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais, cool. Et puis bon, après voilà, les annonces sont arrivées. Donc le projet Gaia-X a voulu être accéléré. Donc pour ce faire, il y a certaines boîtes qui ont été mentionnées pour rentrer dans les premiers brainstorms. Donc Amazon, Microsoft, Google, Salesforce, Oracle, Alibaba, Huawei a été mentionné aussi. Sachant que les premières, au moins Amazon, Microsoft et Google, sont rentrées plus activement dans le jeu. Et là, l'annonce récente, c'était Palantir. Donc Palantir, pour rappel, c'est une société US qui était impliquée dans le scandale de Cambridge Analytica. C'est venu juste après l'annonce aussi d'Alibaba. Enfin, Palantir était rentré, si je me trompe pas, dans Alibaba Cloud, et du coup, voilà, se sentait légitime pour rentrer dans Gaia-X, je sais pas. Et donc oui, forcément, ça a fait un tollé général, parce que, ben voilà, Palantir, c'est connu principalement de par Cambridge Analytica, c'est sous le régime US, donc c'est sous le Cloud Act. Ça veut dire que potentiellement, s'ils sont impliqués dans n'importe quel type de stockage de données, grâce au Cloud Act ou à cause du Cloud Act, ça peut être une solution pour l'État américain d'aller jeter un œil sur ces données-là. Enfin voilà, c'est le gros tollé général. Mais j'allais dire que c'est pas forcément un plus.
C'était financé par la défense américaine aussi. Enfin, ouais. Le seed funding, enfin le gros seed funding d'ailleurs, venait de là.
Exactement. Donc oui, je sais pas. Après voilà, je pense que Gaia-X, il y a eu beaucoup d'échos sur Palantir, mais globalement Gaia-X était déjà un projet. Enfin, le projet a déjà été assez mis à mal, quoi, par les entrées en jeu des différents acteurs que j'ai cités, des GAFAM que j'ai cités juste avant.
Et alors moi, il y a un truc, c'est anecdotique, mais ça m'a beaucoup fait rire, parce que quand j'ai été lire la déclaration de Palantir qui explique pourquoi ils rejoignent le projet Gaia-X, etc. Alors c'est une grosse communication commerciale, hein, ils font que détailler, oui, mais alors on est expert dans tel domaine et tel domaine et tel domaine. Et la petite blague qui vraiment m'a moi beaucoup amusée, c'est et puis on est bien implanté en Europe parce qu'on a notre siège à Londres. Ah bah c'est bien vu les gars. Non mais nickel. Question timing, on est parfait là. Bien. Et puis bah dans la même veine, BPI France, que je portais déjà beaucoup dans mon cœur.
BPI, c'est la banque
publique d'investissement. Voilà, donc elle a été créée en 2013, si je me trompe pas. Enfin, c'est dans ces eaux-là. C'est pas un établissement très vieux. Hein.
Et au bout de la Caisse des Dépôts, ou enfin en tout cas c'est un peu le.
Ah, c'est un espèce de fouet, c'est un espèce de fork un peu spécialisé dans les startups. Bon, moi je les porte pas beaucoup dans mon cœur parce que je les trouve pas assez sérieux en fait. Concrètement, je trouve que le financement est un petit peu aveugle et il se fait d'ailleurs par le biais de les crédits impôts sur les sociétés, hein, il y a tout une boucle là-dessus. Et donc là, le sketch un petit peu, c'est que BPI France a annoncé qu'il soutenait AWS auprès de toutes les startups justement qui va aider à démarrer. Voilà, donc la souveraineté numérique, c'est pas pour demain, hein, c'est.
Ouais. Mais après,
ouais, et BPI France, ouais. c'est un sacré acteur. Hein. Enfin, genre, on ne parle pas d'une petite banque d'investissement, etc.
Non.
C'est la principale. C'est un organisme français de financement, c'est le principal. C'est près de 80 milliards dans leur bilan comptable. On est à près de 80 milliards. Enfin, c'est énorme. Quand tu lances une boîte bien souvent et que tu cherches quelques fonds, bien souvent, tu vas voir la BPI. Donc, c'est
et
énorme.
Et tu es à peu près sûr de les avoir, hein, que ton projet tienne la route ou pas. Non, mais c'est vrai.
Si t'es dans la tech.
Bah, Audrey, la Tesla qu'on voulait, là, du coup, tu crois que c'est la faute.
À mon avis, c'est jouable. Mais c'est carrément jouable.
Donc, oui, après, voilà, ce qui est dingue, c'est que, ouais, encore une fois, donc, organisme français, etc., on se retrouve avec ce genre de choix de délégation à AWS de ces données-là. C'est les données des pré-Covid, hein, si je me trompe pas.
Donc, je me souviens plus de la précision, je me souviens plus de si ça portait sur un scope de données en particulier. Là, c'était, enfin, l'extrait que j'avais vu, c'était en mode, on va coopérer pour que toutes les boîtes qu'on soutient, passent sur AWS parce que ça va les aider à se développer plus rapidement, etc.
Alors, c'est possible qu'ils aient tendu, hein, mais en tout cas, le début de l'histoire, j'ai trouvé ça quand même dingue. C'est-à-dire que si je me trompe pas, le début de l'histoire, c'est la BPI qui dit, voilà, ouais, c'est le Covid, on va faire des prêts, parce qu'en gros, la BPI fait des prêts aux boîtes en difficulté, aux boîtes françaises en difficulté. Et donc, les prêts Covid, c'est compliqué. Il nous faut vite un cloud, une solution de stockage facile. Donc, ce qu'ils ont demandé, et AWS est arrivé avec leur solution sur un plateau, quoi, plus ou moins. Donc, ça veut dire que non seulement c'est AWS, mais en plus de ça, AWS va stocker les données pour des prêts financiers aux 500 000 boîtes en difficulté française en ayant accès à toutes leurs données financières. C'est ça qui est dingue. Enfin, c'est ça qui est dingue. C'est cerise sur le gâteau, quoi. Donc, les 500 000, 500 ou 600 000 entreprises françaises qui ont bénéficié des prêts Covid vont mettre leurs données fiscales sur AWS. C'est quand même un truc de fou, quoi. Bref, et il n'y a pas eu d'appel d'offres. Voilà, l'histoire, je ne la connais pas en détail, mais de ce que j'ai lu simplement dans la presse, c'est que ça a été fait en 12D, quoi, total.
Ouais. Bon, après, quand ils essaient de faire un cloud souverain, on se fout de leur gueule aussi. Vous êtes pas en...
Mais on se fout de leur gueule parce qu'ils vont voir Sopra. Non, c'était pas Sopra qu'ils avaient été voir, ils avaient fait ça avec Capgé de mémoire. Enfin...
Ouais, je sais plus, il y avait Dassault. Bon, il y a eu plusieurs tentatives, mais.
Je comprends pas le, et typiquement, tu vois, BPI France, tu vas pas me faire croire qu'ils connaissent pas des gens comme OVH, enfin, des boîtes françaises à qui, on aurait pu confier ces travaux-là en disant ça va en plus les faire se développer, il y en avait. Ouais. Donc, bon.
Allez, prochain sujet. Sinon, allez, on va avoir la pression artérielle qui va monter, c'est pas vrai.
Et on va parler de taxes numériques, donc on va parler d'impôts, puisque on vous en avait déjà parlé, mais la France avait annoncé une taxe pour les géants du numérique il y a déjà 2 ans, et elle avait été prélevée en 2019, et puis l'État avait accepté de suspendre le paiement des acomptes en 2020, parce que ce qui se passait, c'est que on essayait de trouver un consensus au niveau de l'OCDE. Bon, ce consensus, il a toujours pas été trouvé, les États-Unis ont carrément quitté la table des discussions, donc ce qui pourrait se produire, c'est que l'UE décide de créer sa propre taxe numérique en 2021. Ça, c'est une option qui est sur la table. Mais en attendant, eh bien, la France a décidé de procéder au prélèvement du montant pour 2020. Donc, c'est 3% des revenus réalisés en France par les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 25 milliards d'euros dans l'Hexagone et 750 millions d'euros dans le reste du monde. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que on avait tendance à faire un petit focus sur l'Europe à ce niveau-là, comme pour le RGPD, en disant les Européens, voilà, ils n'ont pas le géant du numérique, donc ils se rattrapent sur la législation. Mais en fait, il y a des pays asiatiques, il y a la Thaïlande, il y a l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, qui ont également commencé à mettre ces taxes-là en place pour lutter contre la pratique d'évasion fiscale, en fait, dont sont souvent accusés les géants du numérique et qui agacent un petit peu partout. Et à contrario, Netflix nous a un peu surpris en annonçant que dans plusieurs pays d'Europe, donc pour le moment il y a France, Royaume-Uni et Espagne, le paiement de l'impôt sera fait en fonction du nombre d'abonnés dans ces entités locales et non plus sur le chiffre d'affaires qui est déclaré aux Pays-Bas, etc.
Alors qui est déclaré en France, qui est de 5 euros, quoi.
Voilà, parce que celui qui est déclaré en France est de rien du tout. Et en fait, nous, en tant qu'utilisateurs, quand on payait notre abonnement, c'était auprès de Netflix Pays-Bas, qui donc est un paradis fiscal hein, quand même. Et Agnès, tu peux nous en parler, puisque tu es en immersion.
Je suis de Pays-Bas, je suis une intrus.
Non, tu es notre espion. Et donc voilà, donc je sais pas exactement si on va arriver à quelque chose au niveau européen. Pour le moment, ça a pas plus été annoncé que ça. C'est une réflexion.
Très bien, parce que tu sais, t'annonçais la RGPD où effectivement, que les États-Unis disaient ouais, c'est de la rétorsion parce qu'ils ont pas la capacité technique, mais en vrai, ça a quand même été copié, quasi copié-collé par le Brésil, par la Californie, par, je sais plus si le Japon en avait déjà une avant, mais bon, bref, il y a quand même l'Europe a mis les premiers gros pieds dans le plat, mais bon, tout le monde est content et tout le monde suit, hein, y compris les Américains au final. Donc, c'est possible que cette taxe, ça soit dans la même veine si elle est faite intelligemment.
Parce qu'elle a, comme pour le RGPD, c'est ça qui est marrant, c'est que au départ aux États-Unis, on passait pour des dingues avec le RGPD, sauf que maintenant, il y a beaucoup de voix aux États-Unis qui disent qu'en fait, il leur faudrait quelque chose d'équivalent et que c'est ce qu'il faut pour protéger les utilisateurs.
Ouais, carrément. Ça, c'est intéressant. Après, je crois ne pas me tromper, mais sur la taxe numérique, la volonté, c'est quand même faire un texte auprès de l'OCDE, hein, donc un texte international.
Bah, oui. C'est ça le truc, c'est que l'OCDE, ça avance plus là. Enfin, et c'est pour c'est ça que la taxe française revient sur le devant. Le truc. On l'avait dit, on la met en pause, mais rétroactivement, on l'applique si en gros, au niveau de l'OCDE, ça avance pas. Mmh. Comme là, ça avance pas.
Alors c'est sûr que ça avance pas, mais après moi j'avais compris que le fait d'avoir un acteur qui bouge pourra être un levier pour faire signer le texte entre les 37 pays, quoi. C'était ce que j'avais compris, quoi. Après, d'accord, c'est peut-être beaucoup espéré. Mais j'avais compris que c'était de se dire, bon, allez, on avance, on va mettre en place ça sur... Après, il y a Biden, parce que dans l'OCDE, il y a les États-Unis. Donc, avec Biden, j'avais lu un ou deux trucs à l'époque où c'était pas porteur d'espoir, mais en disant que ça pourrait faire bouger le truc, quoi.
Bah, on peut éventuellement espérer un retour des États-Unis à la table des négociations, par exemple, hein. C'est peut-être pas délirant de considérer ça, parce que l'autre problème qu'il y avait avec la taxe, le fait que la France se soit lancée toute seule au départ sur cette taxe-là, c'est que en retour, on était punis commercialement, ouais, en subissant des excès de taxes sur des produits que nous on importe aux États-Unis. Donc typiquement, il y avait le vin, je crois, il y avait des produits de luxe, des choses comme ça.
Ouais.
Donc effectivement, ce serait quand même mieux.
Qui a été taxé là depuis 2021, mais ça c'était pour un contentieux Airbus Boeing. Donc voilà.
Ah oui, c'est vrai, il y avait ça.
C'est quand même un jeu d'échecs multidimensionnel, hein, le truc.
Et on parlait de RGPD, ça nous emmène directement au sujet suivant, qui est le sujet de la.
Tu les as alignés les thèmes ou pas?
Non mais attends, Emmanuel, depuis le temps, tu me connais. Et oui, puisque la CNIL a procédé à une première application du RGPD qui, enfin, première application, c'est peut-être pas la première absolue, mais en tout cas, là, c'est le premier gros coup d'annonce, c'est qu'elle a levé une grosse amende contre Amazon et Google. Donc, c'était le 10 décembre, des amendes de 100 et 35 000 euros contre respectivement Google et Amazon pour non-respect du RGPD, jusqu'en septembre 2020, il y avait des cookies qui étaient déposés pendant la navigation sans la demande de consentement de l'utilisateur.
Et voilà. Au but de manger 5 fruits et légumes par jour et de manière raisonnable. Donc, faut pas laisser les cookies traîner partout.
Exactement. On ne laisse pas la jarre à cookies ouverte. Ça ne va pas du tout. Et la CNIL a prévu qu'à l'avenir, les amendes pourraient être plus lourdes, puisque les amendes pouvant être calculées en fonction du chiffre d'affaires de la maison mère. Je crois que là, ils n'ont pas tapé le maximum qu'ils pouvaient, mais c'est un calcul aussi sur le nombre de personnes concernées par le manquement.
Il disait 12 milliards pour Amazon et 6 milliards pour Google dans les expectations. Ça, vu que c'est taxé sur le chiffre d'affaires, comme tu dis.
Ouais.
Le max.
L'estimation qu'il disait, c'était 12 milliards pour Amazon et 6 milliards pour Google.
C'est marrant d'ailleurs qu'Amazon ait été tapé 4 fois plus fort, en fait. Ouais, j'ai pas lu le détail, mais bon, ça me surprend pas trop parce que je pense qu'Amazon, au niveau d'essayer d'avoir une vue, unis qui sont, ils doivent être pas mal sournois, je pense. Mais après, c'est vrai que c'est Google qu'on a tendance à mettre dans le collimateur sur cette vue à cause de la pub. Mais Amazon, c'est un gros acteur de pub, que ça soit de la pub pour eux ou de la pub pour les autres, pour les gens qui sont sur leur plateforme. Donc le petit cookie, il se disait, ils vont nous demander 1 million, on en aura fait 50. Avec ça, donc on s'en fiche. Donc là, l'idée, c'est de rétablir un peu l'équilibre.
Et donc, il y a eu un move là assez intéressant au niveau européen, c'est que Google a voulu racheter Fitbit et que le Conseil européen a donné son aval, mais à certaines conditions. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils vont devoir respecter une période de surveillance de 10 ans, qui est potentiellement renouvelable une fois. Et la Commission européenne exige un mandataire, d'ailleurs, pour surveiller que les conditions sont bien respectées. Elle concerne la publicité, le maintien de l'accès gratuit à l'API pour des applications tierces, et puis une série d'engagements qui concernent les API Android, pour garantir un accès dans les mêmes conditions. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que, spécifiquement au niveau de la publicité, il y a une interdiction d'utiliser au niveau européen, les données de santé et de bien-être à des fins de publicité, justement, quand les informations ont été recueillies par les produits Fitbit. Il faut qu'il y ait une séparation technique des données qui soit relative à la clientèle Fitbit, de manière à les isoler du reste des données de Google, et que le choix soit laissé aux individus d'autoriser ou de refuser que leurs données de santé et de bien-être soient utilisées par d'autres services de Google, comme pour ça pourrait être Maps ou YouTube ou etc. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient de tomber.
Mais si t'es malade et que font un chemin plus rapide sur Google Maps vers l'hôpital, c'est ça.
C'est ça.
Non, mais c'est pour le bien de tout le monde.
Et en fait, là, ça nous amène tout droit vers ce qui est pour moi l'un des sujets les plus intéressants d'aujourd'hui. C'est le nouveau projet de loi européen qui a été présenté le 15 décembre et qui va être discuté prochainement. Ce qu'on appelle le Digital Services Act et le Digital Market Act. Et donc, en fait, c'est un projet de réglementation de l'espace numérique qui est en deux parties. Donc, le Services Act, lui, il concerne les contenus publiés en ligne. C'est pour pousser les plateformes à prendre leurs responsabilités face au contenu qu'elle publie, mais aussi justifier ce qu'elle censure, ce que j'ai trouvé très intéressant comme précision, et qui concerne toutes les plateformes sans exception. Le Digital Market Act, lui, il porte sur les marchés numériques, et plus précisément, il va forcer les plateformes à rendre des comptes sur le fonctionnement de leurs algorithmes et l'utilisation qu'elles font des données privées. Donc le but, c'est de s'assurer que il n'y a pas d'abus de position dominante dans certaines activités pour étendre la domination à d'autres marchés. On pourrait penser par exemple à Android qui installe d'office Google comme moteur de recherche sur ses téléphones. Donc effectivement, il y a forcément des règles pour l'application du DMA il faut que ce soit une plateforme qui a un impact significatif sur le marché, donc ça c'est en termes de chiffre d'affaires ou de valorisation boursière, qui au cœur de son business a une plateforme qui permet aux utilisateurs commerciaux de toucher des utilisateurs finaux. Donc là on parle quand même de plateformes qui vont toucher 10% de la population européenne, c'est 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels, et ceux qui jouissent d'une position affirmée et durable, ce qui fait que cette position a plus de chances de perdurer dans le temps. La régulation, elle va prendre trois facettes principales. D'abord, ça va être la mise en place de silos pour empêcher la mutualisation de données entre les services de l'entreprise. Et là, moi, ça m'a fait penser à ce qui s'est passé aux États-Unis avec WhatsApp, et Facebook et Instagram, où à un moment, Facebook a dit, on va rassembler toutes les données dans la même base. La deuxième chose, c'est de donner aux annonceurs et aux éditeurs à qui ce qu'on appelle le gatekeeper, donc les plateformes, ces grosses plateformes justement qui les remplissent les trois critères. Voilà. Qui offrent des services publicitaires, elles vont devoir donner aux annonceurs le prix payé par l'annonceur et l'argent récolté par l'éditeur. Donc elles vont devoir être plus transparentes là-dessus. Et puis, ça c'est un autre gros point important, c'est qu'elles vont être obligées de notifier Bruxelles de leur projet d'acquisition en Europe, puisqu'elles sont souvent reprochées de freiner un petit peu la compétition en acquérant leurs compétiteurs avant qu'ils deviennent trop gros. Et les sanctions prévues sont quand même assez importantes parce que, bien entendu, elles se feront en fonction du chiffre d'affaires et du projet de loi, donc comme c'est un petit peu le cas pour le RGPD. Là, on sera sur 10% dans le cas du Digital Market Act et 6% dans le cas du Digital Services Act, donc celui sur les contenus. Mais en cas de récidive, le démantèlement pourrait être promulgué. Donc ça, c'est quand même assez poussé comme avancée. L'objectif, ça serait d'avoir une adoption en 2022. Alors, on garde à l'esprit que le RGPD a mis 4 ans à être adopté. Donc 2022, ça paraît pas gagné. Et bien entendu, c'est un document qui n'a pas fait la joie des GAFAM.
Mais pour revenir à Fitbit, tu crois que... Est-ce que Google a annoncé non, on n'y va pas, ou est-ce qu'ils y vont quand même, en fait?
Non, ils y vont quand même.
Ils y vont quand même. D'accord. Donc ils voient de la valeur quand même au-delà des pires abus qu'on aurait pu avoir peur. Ou alors ils se disent on va attendre 2 ans puis après on va le faire quand même. Tu disais sur WhatsApp, c'était genre non, jamais on va le faire. Après, c'était que ça n'était qu'une déclaration, c'était pas imposé par la loi, mais Et je sais plus combien de temps après, mais au final, effectivement, c'est bon, bah non, on va faire tout unifié, ça sera mieux quand même.
Bah le après, ce qui était intéressant sur Fitbit, c'est que Google avait déjà pris certains des engagements qui lui étaient demandés en amont. C'est-à-dire qu'avant que la Commission européenne énonce justement ces conditions-là, il y avait des engagements sur le fait, par exemple, de ne pas partager les données avec les autres services de Google qui avaient été prises.
D'accord.
Voilà. Donc je pense qu'elle, ça les a pas. Bon, ils s'attendaient peut-être pas à être surveillés pendant 10 ans, voire 20, avec quelqu'un d'extérieur qui va devoir contrôler ça et qui, pour le coup, devra avoir accès aux données, aux bureaux, etc. Ça va quand même assez loin, mais bon, on verra. Après, moi, je suis assez enthousiasmée par le Digital Services Act et le Digital Market Act. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui va dans la bonne direction également.
Moi, ça me rappelle un peu les vieilles lois, d'ailleurs, américaines contre les monopoles, en fait.
Ouais.
IBM, non, IBM n'est pas passé, mais Bell Labs, enfin Bell, Microsoft, plus récemment, d'ailleurs Amazon et Google, non, Google, ouais, je crois, c'est officiellement et prochain un peu sur la liste. Donc,
ouais.
Ça ressemble à ça, donc c'est pas mal d'avoir cette épée de Damoclès parce que ça permet de se dire, bah, attention, si on va trop loin, il y a quand même des conséquences fortes. Non pas la première conséquence financière, mais la deuxième dont tu parlais, de démantèlement. Après, faut voir le détail, comment c'est écrit, comment ça peut se trouver un workaround, et puis surtout, est-ce que ça sera effectif en pratique, c'est toujours le... Dès qu'on va dans les détails, c'est là où les failles arrivent un peu. Ma peur, c'est que ça devienne un mammouth qui soit pas forcément utile. Donc c'est là où, de toute façon, aujourd'hui, on peut pas se prononcer, mais l'intention est intéressante.
Mais alors après, sur le contenu, vas-y, Aliette, je t'en prie.
Non, moi, je disais juste, je suis assez d'accord. L'intention est intéressante, et je suis, c'est peut-être pas l'optimiste du jour là. Mais même si RGPD a mis du temps à s'installer, quand même, il y a des vraies conséquences et un vrai impact, en fait. Ça a marché quand même, même si ça a mis du temps.
Ouais.
Donc ça, c'est cool. Et, une initiative comme celle-là, à voir ce que ça fait, mais ça peut faire reculer quand même ça peut assouplir certains acteurs. Moi, je bosse, depuis que je bosse chez Fairphone, je bosse sur Android. Donc, je connaissais peu Android, je parle pas techniquement, mais je connaissais peu les policiers autour de Android. Qu'est-ce que ça veut dire de shipper un téléphone avec Android dessus, la certification Android quand t'es un fabricant de téléphone, enfin tout ça. Et honnêtement, enfin ouais, tu fais face à toutes les problématiques d'un monopole, quoi. C'est-à-dire que les GMS, les Google Mobile Services, tu peux pas les shipper si t'es pas certifié Google. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, ça met à mal potentiellement certaines distributions alternatives d'Android qui peuvent pas être certifiées. Enfin, voilà. Et je me dis, voilà, si grâce à un truc comme ça, vu qu'Android, ça touche évidemment plus de 10% de la population européenne, si ça peut faire assouplir certains acteurs comme l'acteur qui est derrière Android, pour pas le citer, eh ben, c'est bien, quoi. Voilà. Je vois plutôt ça d'un bel œil. Et pour tremper un peu plus dans les conséquences cachées des pratiques monopolistiques, ça peut qu'aider, quoi.
Alors, sur le contenu du projet de loi, bah, en France, on n'a pas de GAFAM, mais on a des idées. Donc, on a déjà eu une proposition. C'est-à-dire que on vous avait parlé de la loi Avia, qui était aussi appelée loi contre la haine en ligne, qui avait été vidée de sa substance. Elle avait été portée devant le Conseil constitutionnel, qui avait repéré beaucoup d'atteintes à la liberté d'expression, donc qui avait vraiment annulé une bonne partie de la loi, qui la rendait complètement inutile. Ben là, notre secrétaire d'État, Cédric O, a plaidé pour une réintroduction des principes de la loi Avia en anticipation du Digital Services Act. Alors c'est un petit peu culotté quand même, et puis en plus c'est plutôt vicieux parce que c'est un moyen finalement de faire pression sur la réforme à venir. Donc on verra ce que ça donne. Donc ça serait ça serait inclus dans le projet de loi séparatisme qui, je crois, a été renommé, mais je n'ai plus son nouveau nom. Et on parlait des situations de monopole à l'instant, et ben il y a une grosse friction justement entre Facebook et Apple. puisque Apple avec iOS 14 a décidé de verrouiller un petit peu plus l'accès aux données personnelles des utilisateurs, c'est-à-dire que les applications, enfin la dernière mise à jour d'iOS va renseigner de façon très détaillée tout ce à quoi a accès une application. Le problème étant que pour Facebook, la liste est quasi interminable. Et le réseau a, en fait, ils savent qu'ils n'ont pas tellement de compassion à attendre de manière générale. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont attaqué Apple, mais en se mettant derrière les petits commerçants et les médias gratuits, en disant que ça allait tuer le web libre tel qu'on le connaît. Enfin, j'ai trouvé ça très culotté également, Facebook qui se pose en défenseur de l'Internet libre. Et de son côté, lui, Apple garde sa position en disant que les utilisateurs doivent savoir quand leurs données sont collectées et partagées avec d'autres applications, d'autres sites web. Ils doivent avoir le choix de l'autoriser ou pas. Alors, c'est une bataille qui pourrait éventuellement se poursuivre juridiquement parce que c'est pas la seule disposition qui a été prise par Apple qui pose problème aux annonceurs. Il y a également une mesure d'antipistage dans iOS 14 qui prévoit de potentiellement désactiver l'accès à ce qu'on appelle l'IDFA, donc Identifier for Advertisers, qui est un identifiant aléatoire qui est attribué à chaque appareil. Et c'est là où les choses deviennent cocasses, c'est que Mozilla a carrément mis en ligne une pétition pour soutenir Apple, que vous pouvez aller signer, bien entendu, puisque pour Mozilla, les choses vont dans le bon sens, et je partage leur avis, évidemment, mais donc on assiste à des situations quand même qui sont...
Juste pour l'argument Facebook est assez faible, parce que quand on lit certains articles de gens en interne, ils disent mais... rien, donc on voit les execs essayer de convaincre les gens, même dans la boîte, que non, c'est pas débile ce qu'ils viennent de faire. Mais c'est, attention, en gros, Apple a son jardin protégé, et du coup, au lieu de dire l'Internet est gratuit, enfin, moyennant une visibilité de publicité, et publicité ciblée parce que c'est comme ça qu'il y a une rentabilité, ils vont imposer les sites qui étaient gratuits avant à être payants. Et quand on est payant sur l'App Store d'Apple, eh bien, on est obligé de reverser 15 à 30% de l'argent à Apple lui-même. Du coup, c'est fait pour encourager Apple dans sa domination des flux financiers sur l'App Store. C'est ça l'argument d'Apple. De Facebook. Pour donner les deux angles. Mais bon. Que ce soit Facebook qui se pose en défenseur, c'est effectivement...
C'est énorme.
On n'est pas sur un haut niveau de crédibilité, je pense que on peut l'admettre. Et donc, en observant ce qui s'est passé, notamment ces derniers mois, l'OMC s'inquiète du protectionnisme numérique. C'est-à-dire qu'elle a fait le constat que la pandémie a accéléré ce qu'ils appellent la mondialisation numérique. Donc, par exemple, ça a été le bond des solutions de paiement électronique au cours des derniers mois. Mais que dans le même temps, les conflits se sont multipliés. Donc, on peut penser, par exemple, aux États-Unis qui ont banni Huawei. Le Royaume-Uni va faire de même bientôt, je crois. À Washington, qui est sorti des discussions à l'OCDE sur la taxe numérique, mais aussi à l'Inde, qui a bloqué plusieurs applications chinoises, dont TikTok. Et pour l'OCDE, alors je trouvais la réflexion très, très intéressante, elle s'inquiète du protectionnisme numérique qui menace la libre circulation des données, alors que celles-ci sont devenues complètement indispensables à l'économie mondiale et que d'elles dépendent des secteurs d'activité entiers. Et donc elle parle carrément d'émergence d'une quatrième révolution industrielle qui va transformer nos façons de vivre et de travailler, et d'un terme dont j'avais pas entendu parler, je sais pas si vous l'aviez croisé auparavant, de servicification. Donc par exemple, il prenait Siemens, qui fait plus aujourd'hui que des appareils industriels, mais qui fait aussi de la maintenance à l'aide des capteurs qui sont installés dessus. Là encore, elle revient sur les problématiques d'émergence de géants qui sont en position dominante, tout en soulignant d'ailleurs la faible part de l'emploi dans leur valeur ajoutée, du fossé numérique qui existe entre les pays développés, émergents et à bas revenus, qui est principalement dû au coût d'accès à la data. Et donc, il y a un appel qui est fait à harmoniser les standards en termes de protection des données, parce que la particularité du protectionnisme numérique, c'est qu'il ne va pas se traduire en politique tarifaire, mais sous forme de restriction au transfert des données. Et donc, on voit des groupes de réflexion qui militent soit pour la création de zones commerciales numériques ou tous les échanges réautorisés entre des pays qui adhèrent aux mêmes règles, ou bien carrément à une espèce de G7 pour avoir des règles communes dans l'espace numérique. Vous pensez qu'on va y arriver, vous ?
Bah, c'est pas surprenant que l'OMC réagisse comme ça. Hein. Enfin, je veux dire,
ouais.
Pour moi, c'était attendu.
Je suis même surprise que ça soit pas arrivé avant quelque part.
Ouais. Ouais, potentiellement. Mais après, je me dis, c'est ça qui est intéressant. Enfin, tu vois, on se plaint toujours, on se plaint toujours. On dit tout le temps, voilà, la place des acteurs privés, à quel point les gouvernements ont peu de piliers d'action, etc. Là, sur ce coup-là, je me demande vraiment ce que l'OMC peut faire sur les directives, les projets européens dont on vient de parler juste avant. Honnêtement. Ouais, ça me fait rire hein, d'entendre ça. Ça me fait rire, moyennement rire, mais je veux dire, j'étais amusée de voir les réactions de l'OMC, mais je suis pas certaine qu'ils aient beaucoup de levier d'action là-dessus. Quoi. La mise en place d'alliances économiques, technologiques sur le du G7, c'est, ils pourront tout. Enfin oui, ça pourra toujours exister, mais contrecarrer ce qui se passe au niveau européen, menacer le DSA ou le DMA, j'y crois moyennement.
Non, ce qu'ils pourraient faire, c'est que restez ouvert, s'il vous plaît. Bon, ça va pas marcher. Non, en plus, j'imagine que s'il faut que les choses soient votées à une majorité assez importante, et puis, vu le nombre de gens, ça va être compliqué. Le nombre de pays dans l'OMC, ça va être compliqué. Et par contre, ils peuvent dire, bah voilà, on va créer un nouveau, comme ils ont aujourd'hui, des bases tarifaires, de base, notamment là, l'Angleterre, en fait, et avec tous les pays, sauf les quelques avec lesquels ils ont signé des droits spécifiques sont dans les bases tarifaires de base, ils pourraient peut-être avoir un échange ouvert moyennant sécurité des données de base et avoir du opt-in petit à petit, parce que c'est un vrai problème pour les sociétés de pouvoir dire moi je peux utiliser les données quoi qu'il arrive. Aujourd'hui il y avait le fameux Privacy Act, c'était quoi le... Enfin, l'accord européen-américain sur le transfert des données sans que ça soit un problème, qui a sauté parce qu'un juge a décidé qu'en fait c'était pas bon, bref. Et du
privacy,
coup,
Privacy Shield, je crois que c'est ça.
Ouais, privacy Shield. Et du coup, il y a un vrai besoin des entreprises à être dans une zone qui soit pas chaotique en fait. Donc là, il y a peut-être un potentiel au niveau de l'OMC avec du opt-in et des
pays
qui montent dedans.
Ouais. Ouais.
Juste pour revenir, effectivement, on voit que le marché s'est pas mal tendu entre les États, et on n'en parle pas dans cet épisode, mais on voit les attaques d'espionnage étatique, ça monte quand même sévèrement là. Alors on ne sait pas si c'est la Russie ou
Sunburst,
pas, on a quand même des doutes assez forts. Je sais pas à quoi ils sont en train de jouer. C'est pas le Parlement des Pays-Bas ou non, de la Finlande, hein, qui s'est fait aussi espionner. Les gars se sont fait choper. Du coup, je sais pas si les Russes se font choper ou si c'est exprès. Enfin, il y a quand même plein de questions super intéressantes. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de bouger, quoi. Et je sais pas si c'est pour le meilleur. le côté bisounours, c'est sûr que là, on n'est pas. Il y a un retour de l'État et de la stratégie étatique, et c'est pas citoyen du monde, quoi. On n'en est plus là.
Ah non, c'est sûr.
Non, ça, je crois que c'était une belle utopie. Je sais pas si on y arrivera un jour.
Ça dure un peu.
Et donc on va enchaîner avec tout ce qui concerne la haine en ligne, la désinformation et les liens entre les politiques et les réseaux sociaux, avec une initiative de Facebook qui est assez intéressante. C'est que ils avaient annoncé la création d'une espèce de commission en fait qui va être chargée d'analyser les cas dans lesquels du contenu haineux a été publié. Donc c'est un conseil de personnalité extérieure en fait qui a été annoncé par Facebook début 2018, mais qui n'était pas encore opérationnel et qui va évaluer sous 90 jours si le réseau social a eu raison de dépublier certains contenus litigieux. Donc il y a plein de choses dedans, puisque par exemple le premier, il va concerner la France et le Covid-19 avec des déclarations autour de la chloroquine, je crois. Mais il va y avoir aussi la republication de propos du Premier ministre malaisien qui menaçait les citoyens français au nom de la défense des musulmans. Il va y avoir évidemment une citation de nazi, parce que si on n'avait pas point Godwin, on ne serait pas sur Internet. Mais il y a aussi, par exemple, des photos de poitrine féminine qui montraient des symptômes de cancer du sein qui avaient été retirés pour nudité. Et puis, évidemment, aussi des choses qui concernent le peuple ouïghour, le conflit récent au Karabakh, etc. Donc les litiges, ils ont été sélectionnés parmi 20 000 contestations qui ont été envoyées au, justement à ce conseil de surveillance. Et puis il y a un panel de 5 membres de la cour qui va essayer d'obtenir du contexte local ou des traductions auprès des experts. Et puis ils diront s'il faut les republier ou pas. Et donc ça, c'est un vrai test en fait, puisque ça va permettre à la structure de éventuellement essayer de prouver son utilité. Et de définir un petit peu les règles du jeu à venir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les présidentes du conseil, il y a, je vais massacrer son nom, je pense, et je m'en excuse d'avance, Helle Thorning-Schmidt, qui est l'ex-première ministre danoise et qui est dirigeante d'une ONG qui protège les enfants de la pédophilie. Et ce qui va être très intéressant également, qui est très attendu, c'est la possibilité de juger des contenus qui, à l'inverse, donc comme c'est prévu dans le Digital Services Act, ont été laissés en ligne par le réseau, qui est souvent accusé de laxisme, justement, concernant par exemple les messages de haine ou les messages du président Trump. Donc ça, ils espèrent pouvoir le faire dans la foulée début 2021.
Que j'ai trouvé intéressant dans l'article, c'est que l'article renomme Conseil de surveillance en Cour suprême. Et je trouvais le point intéressant, je sais pas dans lequel c'est vrai, mais on se dit qu'il y a peut-être, il y aura peut-être cette notion de jurisprudence, en fait. J'imagine que Facebook, c'est ça qu'ils recherchent, c'est d'avoir un groupe indépendant qui, au final, sur lequel, au final, ça monte jusque-là et des règles redescendent. Et du coup, c'est pas Facebook qui fait ces choix-là, c'est un comité éthique dessus. Et ça serait intéressant de voir, bon là, on est au tout début, donc c'est les 5 premiers cas, cette notion de jurisprudence ou de common law pourrait être intéressante à développer. Après, la difficulté, c'est que ces choix, ils sont pas du tout universels. Une poitrine en France, c'est pas la même chose qu'une poitrine aux États-Unis, par exemple. Et encore, c'est des cultures assez similaires, toutes choses égales par ailleurs. Donc, voilà, je trouvais ça, ce serait intéressant à voir se développer le poids et l'influence qu'ils vont avoir, effectivement, en fait.
Alors, c'est des sujets qui sont d'autant plus essentiels que y a eu pas mal de départs à Facebook après les élections américaines. Donc là, il y avait le témoignage d'un data scientist qui travaillait dans l'équipe violence et incitation à la haine, qui est parti après 2 ans et demi. Et en fait, dans son mot de départ, il explique que ça devient embarrassant de travailler pour Facebook. Alors, il est très content du travail qu'il a accompli avec son équipe, mais pour lui, la tâche d'arriver à arrêter la haine et la violence sur Facebook, c'est complètement inachevable du fait de certaines forces en interne qui les promeuvent à l'inverse. Donc, il donnait les chiffres, hein, c'est toujours intéressant d'avoir les chiffres. Pour lui, d'après les données sur lesquelles il a travaillé en interne, il y a 1 contenu sur 1000 qui est publié, qui enfreint les règles sur les discours à la haine. Mais même avec l'aide de l'IA et des modérateurs tiers, Facebook supprime moins de 5% de tout ce qui est publié sur son réseau et qui rentre sous la bannière contenu haineux. Et ce départ, il n'est pas isolé, puisqu'en fait, depuis mai, il y a beaucoup d'employés qui ont quitté l'entreprise au motif que soit ils avaient honte de l'impact que leur entreprise avait sur la société, ou parce que, justement, ils étaient inquiets de l'inaction de l'entreprise dans la modération de des contenus soit haineux, soit des contenus de désinformation. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que dans les dernières semaines de l'année 2020, c'est 4 employés au minimum qui étaient impliqués dans des travaux critiques, justement autour de l'élaboration d'une politique de réduction des discours haineux, le tracking de contenus qui enfreignent les règles de l'entreprise, etc., qui ont quitté la compagnie. Et pour eux...
Je me permets juste un truc, vrai, là-dessus. Effectivement, je me souviens qu'il y avait eu aussi beaucoup de départs. Et on avait parlé de ces départs-là quand Trump, il avait réagi, tu sais, au meurtre de George Floyd.
Oui.
Et du coup, parce que là, pour le coup, il n'y avait pas eu d'action. Son message était passé, il avait déclaré ça. Et du coup, là, il y avait eu une vague de départ aussi. Quelques personnes qui
avaient fait... Exactement, ça fait typiquement partie, je pense, des contenus dont le conseil de surveillance là aimerait discuter à l'avenir, parce que effectivement le post qui disait que quand les pillages commencent, les coups de feu aussi, il n'avait pas été dépublié, alors que il avait engendré beaucoup de polémiques, y compris en interne, et justement c'est ce qui fait dire à ces salariés démissionnaires que le manque d'action il est en partie volontaire, parce que ils ont et donc Donc là, en fait, ils ont carrément sorti des outils internes hein, auxquels ils avaient accès. Et il y a notamment ce qui s'appelle un hate bait dashboard. Donc c'est le tableau de bord des pages qui incitent le plus à la haine. Ça liste une dizaine de pages US qui ont concentré le plus grand volume d'interactions qui enfreignent les règles. Et ces pages, en fait, sont quasiment, je crois qu'elles sont toutes associées à des personnalités ou à des marques conservatrices. Donc on va retrouver Breitbart News, on va retrouver Fox News, le compte de campagne de Donald Trump, mais aussi son compte personnel. Et donc la supposition de ces salariés démissionnaires, c'est que la direction ne veut pas se mettre à dos un parti plutôt que l'autre et donc choisit volontairement de laisser en ligne ces contenus qui enfreignent ces règles. Mmh. Et c'est un peu flippant quand même parce que donc tous ces ex-employés là, mais il y a aussi des gens qui sont encore en poste qui ont témoigné, ils ont tous demandé à ce que leur anonymat soit respecté pour éviter les représailles. Et tous les mots de départ, parce que chez Facebook, ils ont un outil apparemment où quand un employé s'en va, il peut laisser un petit mot de départ sur une espèce de tableau virtuel qui est visible de tous. Ils ont tous été
virés. Ouais, j'ai entendu ça. Ils avaient viré les mots de départ parce que justement, certains mots de départ appelaient à la révolution, pas la révolution, mais à l'action en interne, quoi. Et ils ont été virés, ouais, effectivement.
Mais l'anonymité, j'ai pas tout compris parce que les gens qui sont partis, l'anonymité, ils la recherchent parce que ils vont aller chercher du boulot ailleurs et qu'ils veulent pas se faire flaguer, en fait. Hein. C'est pas,
je pense.
Que chez Facebook, ils sont pas cramés, mais en tout cas, ils ont décidé de partir, donc ils ont décidé de partir. Mmh. Donc il y a, tu vois, là, c'est pas un problème Facebook, c'est un problème de. C'est un problème plus de genre la relation entre mes opinions et ma capacité à me faire embaucher.
Alors effectivement, mais comment dire, ça vient en lien avec une autre nouvelle qui est passée relativement inaperçue, mais qui pourtant est pas si anecdotique que ça, puisque Facebook n'est pas vraiment le seul à rencontrer des problèmes de ce genre. Hein. Chez Google, il y a eu aussi beaucoup de départs pour protester contre notamment le fait que Google accepte de travailler avec le gouvernement américain, ou à un moment ils étaient prêts à accepter des mesures de censure pour s'installer en Chine. Et ce qui s'est passé, c'est que une de leurs chercheuses, donc c'est une chercheuse noire en l'occurrence, qui travaille sur les questions d'éthique qui sont liées à l'intelligence artificielle. Elle est également cofondatrice du groupe Black in AA, dont l'objectif est d'accroître la présence des personnes noires dans le domaine de l'IA. Et donc voilà, elle a en fait a reçu un message disant que sa hiérarchie acceptait sa démission, sauf qu'elle l'avait jamais soumise. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qui lui est reproché, c'est qu'elle se serait plainte auprès d'un groupe interne du fait que l'entreprise réduise au silence les voix marginalisées. Et donc, on lui aurait répondu que certains aspects de son message envoyé au groupe seraient en contradiction avec ce qu'on attend d'un manager. Et elle aurait également reçu l'ordre de rétracter un article scientifique sur une éventuelle utilisation d'une IA pour imiter des propos haineux ou biaisés. Et en fait, le chef du département IA a expliqué qu'il y avait des lacunes importantes et que Google pouvait pas mettre son nom là-dessus, mais il n'y avait pas eu plus de détails. Et c'est un petit peu gênant parce que dans le même temps, Google a été sommé par une agence fédérale américaine de répondre à des accusations de surveillance à l'encontre de ses employés militants, qui sont des employés qui ont voulu monter un syndicat et qui, pour certains, ont été virés. Facebook rencontre les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'ils ont interdit l'utilisation de certains mots, de tous les mots autour du syndicalisme, en fait. Amazon a déjà été épinglé pour les mêmes problèmes. Donc, quelque part, on a l'impression qu'ils savent qu'il y a des problèmes, puisque, par exemple, on sait que l'IA est complètement biaisée. Les jeux de données sont biaisés déjà de base par les gens qui les conçoivent, qui transmettent leur propre biais cognitif. On voit qu'il y a un constat qui est fait de cette situation, mais on n'a pas l'impression que les gros groupes tels que Google ou Facebook sont prêts à prendre les mesures qui vont à l'encontre qui vont dans le sens de la résolution de ces problèmes.
Il y a juste, parce que tu parlais de syndicats là, donc il n'est pas dans la liste des articles là qu'on va mentionner, mais il y a l'un des employés du groupe Alphabet qui ont créé un syndicat justement. C'est le cas des travailleurs de la communication, un truc dans ce goût-là. Donc, il y a une syndication qui est en train de se faire chez Google, mais j'imagine que ça pourrait être suivi dans d'autres boîtes. Donc, il y a du combat dans l'autre sens aussi.
Et sachant que, si je me trompe pas, ce regroupement, c'était même pas un vrai syndicat qui voulait monter au début, c'était un regroupement d'employés. tu sais, par rapport à ce que tu disais, Audrey, certaines personnes se sont fait surveiller les employés dits militants, etc. Ces gens-là, ils n'avaient même pas l'ambition de monter un syndicat au départ, ils avaient juste l'ambition de se regrouper pour parler, brainstormer un petit peu sur ces problématiques d'éthique, on va dire. Et ils ont commencé à se faire surveiller. Et ça a été remonté, et du coup, c'est pour ça que Google a été sommé de s'expliquer sur la question, mais il n'y avait même pas encore l'annonce d'un syndicat. C'était juste un regroupement d'employés. Enfin, je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi. Je dis pas qu'ils se retrouvaient simplement au café pour discuter, c'était peut-être sûrement plus formel, parce qu'ils ont appelé, a priori, ces employés avaient appelé d'autres personnes à rejoindre leur groupe, etc. Il y avait des espèces de petites channels en interne et tout ça. Mais c'était même pas une union formelle, quoi. Un union, quoi, formel. Et c'est ça qui est dingue. Moi, je pense que ça tient de la capacité, de la volonté de Google et de ces boîtes-là à vouloir faire de l'éthique, mais évidemment contrôlée. On parle aujourd'hui de chief ethics officer, etc. Donc, ils veulent évidemment canaliser ces réflexions sur l'éthique et absolument pas voir des channels naître sans leur contrôle, quoi. Mais c'était, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'était même pas dans le cadre d'un union officiel, quoi. Les premières écoutes qu'ils ont lancées.
Donc, faut vraiment espérer que le conseil mis en place là par Facebook puisse servir un petit peu de jurisprudence, parce que sinon j'ai l'impression que ils prendront pas ce wagon-là. Enfin, à partir du moment où ça va toucher à leurs intérêts économiques, ils bougeront pas.
Ouais.
Parce que pourquoi laisser des postes haineux de Trump? C'est parce qu'en même temps, ça assure, enfin, en termes d'interaction avec la page, de partage, etc., c'est énorme. Et donc, qui dit like, qui dit partage, dit publicité à côté.
Mon opinion, pour ce cas-là, je pense que c'est plutôt un choix politique plus qu'économique si on retire, il va se passer quoi?
Oui, parce que en même temps, c'est vrai que le cas précis de Trump.
Je refais quand même dans l'autre sens, tu vois.
Ouais, le cas précis de Trump, il est intéressant parce que mine de rien, c'est le président des États-Unis d'Amérique, et ne pas publier son contenu, malheureusement, il publie du contenu qui incite à la haine, mais en même temps, il faut savoir ce qu'il déclare. C'est pas évident, hein, comme décision. On verra si c'est discuté justement par le Conseil. Et puisqu'on parle d'éthique dans l'IT et de...
Ah, attends, juste avant, il y a un autre truc qui m'embêtait dans ça, c'est le manager, c'est quelque chose, on attend du manager, en gros, un comportement différent. Ça me fait hyper peur, ça, parce que on sait que le management, notamment le management intermédiaire, mais mon exec, donc pas les contributeurs individuels, donc les gens entre les deux, ils sont un peu des... j'exagère, mais ils prennent le message d'en haut et ils essaient de le spécialiser et de transmettre l'info et puis de remonter aussi du feedback. Mais c'est une position difficile parce qu'en fait, on est censé transmettre, entre guillemets, la bonne parole. Mais ça reste des humains qui ont une liberté de penser. Et donc, quand une boîte attend du manager qui soit effectivement juste une roue qui va transmettre la demande et la stratégie, c'est compliqué. Et si on peut pas laisser au manager une liberté de parole, ça me fait peur pour une société, tu vois. Et je critique pas particulièrement Google là-dessus parce que j'imagine bien que c'est quelque chose qui est assez général en fait dans les boîtes. On demande à des managers, déjà on les entraîne pour qu'ils soient bien conscients de toutes les discriminations possibles et imaginables, mais aussi voilà, on leur demande de transmettre la parole. Ça fait partie en tout cas de leur boulot, et je sais pas, ça m'a dérangé en fait quand j'ai lu l'article.
Un autre truc qui m'avait dérangé, alors si je ne me trompe pas, c'est chez Facebook justement, mais dans une des sociétés là qu'on a citées, ouais, je suis quasiment certaine que c'est Facebook, il y a des espèces de formations sur les intérêts du business pour les employés, etc. Donc il y a, tu vois, une espèce de volonté de les conditionner un petit peu à ce qu'ils ont le droit de dire et de pas dire, et peut-être peu de penser et pas de penser, quoi, sur le business de leur boîte.
Ouais. Allez, sujet différent.
Allez, sujet joyeux, surveillance de masse.
Yes.
Alors, le projet de loi sécurité globale, on vous en avait longuement parlé dans l'épisode 242, eh bien, il a été, sans surprise, adopté par l'Assemblée à une vitesse record. Donc là, il va être normalement débattu par le Sénat ce mois-ci, mais il est passé comme une lettre à la poste. Donc pour mémoire, il y avait trois articles en particulier qui posaient problème. Un sur l'accès aux images des caméras piétons portées par les policiers, deux sur la captation d'images par drone, et le troisième qui est celui qui a créé beaucoup
sur
de manifestations.
Le non-accès en l'occurrence, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à accéder à ces images, sauf si la police accepte, c'est ça.
L'accès aux images des caméras piétons, c'est le fait que les caméras qui sont portées par les policiers peuvent être utilisées en permanence et qu'il peut éventuellement y avoir une transmission d'images en temps réel au poste de commandement, ce qui pourrait aboutir à du traitement. Voilà, donc en fait, on pourrait imaginer par exemple un manifestant qui est empêché de rejoindre une manifestation parce qu'il est reconnu par cette caméra. La captation d'images par les drones, c'est sur la gestion des manifestations. Et la diffusion de l'image des policiers, l'article 24, qui était celui qui posait le plus problème, c'était le fait de ne pas avoir le droit de filmer des policiers dans les manifestations ou autres actions publiques. Alors, dans l'idée de ne pas leur porter préjudice ou atteinte, ce qui est normal, mais qui en fait est déjà régulé par la loi. Et donc là, c'est quand même, c'est un texte qui avait levé beaucoup de critiques à son encontre par les journalistes, par des organismes publics nationaux, internationaux. On a quand même Amnesty International, on a l'ONU qui se sont exprimés sur le sujet et qui s'inquiétaient de la défense des libertés publiques. Et alors, ce qui est intéressant, on a peut-être une fenêtre là-dessus, c'est que, en parallèle, le Conseil d'État vient d'interdire l'usage des drones pour filmer des manifestations, puisque c'est quelque chose qui est fait déjà depuis un moment, alors qu'il n'y avait pas eu d'autorisation pour ça, il n'y a aucun décret de loi qui avait prévu ça. Et donc, le Conseil d'État avait été saisi par la Quadrature du Net, et il a rendu publique sa décision le 22 décembre, et il a jugé que le ministre n'apportait pas d'éléments de nature à établir que l'objectif de garantie de la sécurité publique lors de rassemblements de personnes sur la voie publique ne pourrait être atteint pleinement en l'absence de recours à des drones. Donc, globalement, c'est complètement surfait, c'est pas nécessaire. Donc il y a trois actions qui vont être prises et dont l'une qui concerne plus spécifiquement la préfecture de police de Paris qui va devoir arrêter immédiatement l'usage des drones pour la surveillance des rassemblements de personnes. Mais comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, eh bien, nous avons un petit décret qui est passé comme ça, tranquillement, au mois de décembre, profitant des fêtes un petit peu. C'est trois décrets qui portent sur les fichiers de renseignement. Donc, ces fichiers de renseignement, à l'heure actuelle, ils ne concernaient que des personnes physiques considérées comme dangereuses par les autorités. Mais maintenant, depuis les trois décrets, du 4 décembre 2020, la liste des personnes fichées va être excessivement étendue, mais aussi les informations recueillies. Donc ça va pouvoir concerner des personnes morales ou des groupements. Donc vous pourrez imaginer des associations, des groupes Facebook, des manifestations. Ça permet de lister plus complètement les personnes qui entretiennent ou qui ont entretenu des relations directes et non fortuites avec ce groupement. Donc ça peut être par exemple des participants à une manifestation. Encore plus problématique, le fichage va maintenant viser les habitudes de vie et les activités en ligne. Ça veut dire que le contenu des réseaux sociaux est concerné également.
On va dire toute personne qui a un lien, même sur les réseaux sociaux, si t'as, je dis pas que ça concerne pas tes followers, mais admettons, si jamais on estime que t'as un lien, même s'il est via un réseau social avec quelqu'un, cette personne peut avoir une fiche complète.
Voilà. Et parce que ça ne s'arrête pas là, donc en fait il y a le fait que maintenant les enfants de moins de 13 ans vont pouvoir aussi être fichés, ainsi que, et ça c'est quand même assez bizarre je trouve, les victimes des personnes considérées comme dangereuses, sachant que cette appréciation sera laissée aux forces de l'ordre et fera pas l'objet d'une décision juridique. Et dernier point, ce qui pose énormément de problèmes. Alors déjà, sur le fait que les réseaux sociaux soient concernés, la CNIL n'était pas franchement contente. Elle a demandé à ce que soit exclu explicitement la possibilité d'une collecte automatisée des données, puisque c'est le risque avec les réseaux sociaux, mais le gouvernement a refusé. Et L'autre point sur lequel elle s'est fait moucher finalement, c'est que maintenant les notes individuelles, elles pourront contenir les opinions politiques, les convictions philosophiques, religieuses et ou l'appartenance syndicale, mais également des données de santé qui relèveraient d'une dangerosité particulière, sachant que ces données, elles seront obtenues en direct de la part des personnes fichées. En fait, la CNIL, elle a pas pu se prononcer sur la modification parce que c'est pas ce qui lui avait été soumis quand le projet de loi lui avait été soumis. L'appellation était plus vague. On parlait d'activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales. Et déjà à l'époque, elle trouvait que c'était pas pertinent, que le périmètre des catégories était trop étendu et que la rédaction de certains passages était trop large. Donc le Conseil d'État a été saisi par plusieurs grands syndicats, dont le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France. Mais il a validé l'élargissement des fichiers le 4 janvier. Donc c'est tout récent. Il y a la seule chance, j'ai l'impression, qui reste là-dessus, c'est que d'après une spécialiste des questions liées aux fichiers de police, qui est aussi maîtresse de conférences à l'Université de Nantes, Virginie Gautron, si on saisit la Cour européenne des droits de l'homme sur ces fichiers, ça ne passe pas parce que les principes de proportionnalité et de nécessité sont pas remplis.
Il y a eu pas mal de manifestations là-dessus, sur ces fichiers, en décembre, dans les rues, en extension des manifestations contre la loi sur la sécurité globale. Mais en gros, pour moi, ces fichiers-là, enfin, en gros, si la loi sur la sécurité globale, elle passe, elle concerne, grosso modo, qui peut être filmé, les manifestants vont pouvoir être filmés dans une manifestation par un drone, etc. On n'a pas parlé de la reconnaissance faciale, mais il y a aussi un élément là-dessus. Et les fichiers, ces fichiers-là, vont permettre, le fichage, le fait de stocker ces éléments sur un certain nombre d'années, etc., vont préparer là où tu vas stocker ça. Et comment, surtout comment ces fichiers-là peuvent être utilisés. Parce que qui dit fichier, toutes les informations centralisées dans ces fichiers sont pas contrôlées par un juge. Donc ça veut dire que si ça passe, eh ben, t'as la loi qui va faciliter la prise d'image, la prise d'information, et t'as le fichier qui va permettre l'exploitation de ces données-là sur un certain temps. On parle de 10 ans, hein, je rappelle à peu près, sans le contrôle d'un juge, quoi. Donc c'est hallucinant. Et je suis d'accord avec toi, ces décrets-là sont passés un peu inaperçus, même s'il y a eu quelques manifestations de groupes militants, c'est quand même ça a été peu relégué, quoi.
Ouais.
Et voilà. Emmanuel, vas-y.
Ouais, non, juste pour mettre un peu de contexte, bon, le rôle des forces de sécurité intérieure, c'est la stabilité du régime. Hein, donc, ils faisaient ça avant, mais sauf qu'il n'y avait pas de loi, en fait. Hein, et puis, il y a quand même eu un travail depuis, je sais pas, peut-être 10 ans ou plus, d'écriture de ces lois, en fait, parce que même les agents, en fait, disaient, nous, on aimerait bien un truc cadré, quoi. On sait ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Donc, il y a eu un travail à ce niveau-là d'explicitation dans la loi, mais du coup, voilà, qui ressort visible au peuple, et du coup, voilà, toutes ces questions qui sortent. Et là où ça se complexifie, c'est qu'effectivement, on a des capacités techniques d'analyse et donc de systématisation qui sont sans précédent et qui vont largement continuer. Et c'est là où est toute la, enfin, on peut voir dans un certain sens certaines demandes, la légitimité de certaines demandes, mais le spectre de l'abus de ces outils-là, tels que la loi est définie, fait un peu froid dans le dos, quoi.
Et c'est d'ailleurs, c'était un des points qui était relevé par la CNIL. La problématique, c'est que le fait de pouvoir entraîner du traitement de données en masse et de l'interconnexion entre ces fichiers accroît toujours plus en fait les pouvoirs de surveillance, et ça pourrait vous paraître être de la science-fiction. Malheureusement, c'est déjà le cas, puisque là, tout récemment, Alibaba a reconnu avoir donc Alibaba, qui est l'équivalent un petit peu, on l'appelle souvent l'Amazon chinois, qui fait beaucoup de e-commerce, mais pas que. Ils ont des activités très étendues et ils ont notamment une filiale cloud. Et Alibaba a reconnu avoir développé des algos de reconnaissance faciale pour cibler plus spécifiquement les populations Ouïghours. Alors, pour rappel, si vous n'êtes pas familier avec ça, en fait, les Ouïghours, c'est une minorité musulmane qui vit principalement dans le nord-ouest de la Chine. Et qui est victime de persécutions et de surveillance de masse depuis des années de la part du gouvernement chinois. Souvent, en fait, il y a beaucoup de polémiques internationales là-dessus parce qu'ils sont internés de force dans des camps dits de rééducation, dans lesquels au mieux ils sont exploités par des sociétés privées hein, pour produire nos iPhones et autres, voire pire, parce qu'ils ressortent pas tous debout hein, de ces camps-là. Et donc là, bah, Alibaba, c'est une enquête du New York Times avec une autre société. Alibaba a été obligé de le reconnaître. Alors, ils se sont dédouanés, en plus de manière un petit peu peu honnête, je dirais, parce que le communiqué était fait en anglais alors que tous les clients du service sont chinois, en disant que Alibaba, donc qui est la maison mère propriétaire de la filiale Alibaba Cloud, était consterné que ça se soit passé. Mais bon, il est peu probable qu'il n'en ait jamais eu vent en réalité. Et donc, voilà, la filière cloud avait effectivement conçu, développé et commercialisé des outils de surveillance spécifiques sur la population ouïghour, qui était basée sur la reconnaissance faciale et dont les principaux clients étaient une douzaine de départements, par exemple, de police dans tout le pays. Donc, ce qui prouve bien que la persécution, elle n'a pas lieu que dans la province du Xinjiang, où ils sont majoritairement situés, mais partout. Et c'est pas les seuls, hein, parce que Huawei aurait fait de même, apparemment. Donc,
Et je vais ramener la thématique des Ouïghours plus proche de nous, en faisant le lien sur la loi sur la sécurité globale. Tu parles des Ouïghours, donc je suis d'accord avec toi, les Ouïghours, c'est une des populations les musulmanes les plus surveillées. Tu parles d'Alibaba, il y a un outil une boîte qui a longtemps été mentionnée qui s'appelle Ikvision, qui fait qui est spécialisée dans les caméras, qui est connue pour justement avoir fourni au gouvernement chinois des caméras très puissantes pour justement surveiller les Ouïghours. Et Ikvision, je vous le donne en mille, fait partie des deux. Il y a deux candidats shortlistés en France pour les caméras piétons, parce qu'il faut savoir que les caméras piétons, certains agents de police en ont déjà aujourd'hui, mais elles marchent mal. Donc, il y a le ministère de l'Intérieur qui avait voulu sortir un appel d'offres récemment pour renouveler en 2021 les caméras piétons, donc ça va prendre du temps, mais l'appel d'offres va sûrement se terminer en 2021. Et les deux boîtes shortlistées, c'est Ikvision, donc la fameuse boîte chinoise mise à mal dans la surveillance des Ouïghours, et la deuxième, je vous le donne en mille, c'est Axon, qui est une boîte américaine, si je ne me trompe pas, qui a fait le Taser et qui a pivoté récemment pour parce qu'ils ont trop été attaqués sur le Taser, et donc du coup aujourd'hui ils font des caméras. Voilà, mais Ikvision fait partie des potentiels candidats pour équiper nos policiers de caméras piétons. Donc cette fameuse boîte accusée de surveillance des Ouïghours.
Et juste pour fermer sur Alibaba, juste pour info, son CEO Jack Ma a plus ou moins disparu.
Oui, de la circulation depuis deux mois.
Ouais. Il voulait mettre en bourse sa filiale financière qui s'appelle Ant Group. Et ça n'a pas exactement plu au gouvernement chinois qui l'a dit. Et puis, paf, il a plus ou moins disparu. C'est pas trop...
Ah, c'est pas que ça. C'est qu'il a carrément déclaré... En fait, il a critiqué publiquement la politique, de prêt du gouvernement chinois et de taxes, en disant qu'il fonctionnait comme un prêteur sur gage. Et donc, depuis, ils ont pas mal de soucis parce que ils ont... Donc, Alibaba a des enquêtes pour... suspicion de... En fait, les mêmes reproches lui sont faits qu'à Amazon. Ils sont suspectés de profiter de leur position pour dominante, pour mettre des positions abusives dans les contrats, etc., des clauses abusives dans les contrats. Et la filiale qui faisait du prêt, plus spécifiquement, a été sommée de revoir ses activités, de ne faire que du paiement en ligne et d'arrêter de faire des prêts, etc. Et donc, oui... plus personne n'a de nouvelles de Jack Ma.
Ouais.
C'est ça qui c'est horrible, mais la Chine est quelque part souvent illustre bien les dangers de ce que la technologie nous permet aujourd'hui de faire finalement. et de ce pourquoi bah, y a des gens aujourd'hui comme la Quadrature du Net qui sont vent debout contre des projets de loi comme la sécurité globale ou l'extension des fichiers de surveillance. C'est parce qu'aujourd'hui on met ces outils-là en place, on sait qu'ils sont là pour rester. Une fois qu'ils sont introduits, on ne peut pas on les retire très rarement, les outils de restriction de liberté. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui sera à la tête du pays dans 10 ans, quelle sera la politique dans 10 ans, etc.
Exactement. Exactement. C'est à quel moment on arrête la protection du régime et qu'on commence à protéger des personnes ou des gouvernements spécifiques, en fait.
Voilà.
On parlait que la protection du régime, après, selon les opinions des uns et des autres, elle a à être protégée ou pas. Et ça, après, c'est les fonctions régaliennes.
Voilà. Eh bien, je crois que c'est une bien belle conclusion.
Voilà.
Parfait.
1h30 pour la réunion. Donc, loi.
Voilà.
C'était organisé.
Ben écoutez, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est, si vous ouais. aimeriez en voir d'autres de ce genre, voilà.
Si vous avez écouté
jusque-là. C'est bien.
Merci encore. Ben merci aussi beaucoup à Agnès qui nous a rejoint.
Merci à Audrey, mais en fait, je pensais à Agnès, mais effectivement, merci à Audrey aussi.
Merci à vous pour l'invitation.
Et puis, eh ben, on vous dit à bientôt pour de nouveaux épisodes news.
Oui.
À bientôt. Allez. Au revoir.
Et déprimez pas trop, quand même.
Bonne chance.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.